pour cette 76e conférence Patrick Cotzone sur l'imagerie médicale. Patrick Cotzone est membre de l'Institut universitaire de France en chaire de biophysique. Il est professeur de biophysique à la faculté de médecine d'Aix-Marseille 2. Il est directeur du centre de résonance magnétique biologique et médicale du CNRS et il est spécialisé dans les applications biologiques et médicales de la résonance magnétique nucléaire, notamment en IRM, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique, et en SRM, qui est la spectrométrie par résonance magnétique. Il est également président de la Société européenne de résonance magnétique en médecine et biologie, et j'ajoute qu'il a publié à peu près 250 articles dans des revues spécialisées. Nous écoutons Patrick Cotzone.
Bien, bonsoir et merci de votre gentille introduction et merci à vous d'être venu passer une petite heure avec moi pour écouter les dernières nouveautés en imagerie médicale et essentiellement en imagerie par résonance magnétique. Est-ce que on peut brancher ce projecteur de diapositive ? Merci. Alors, tout d'abord, une définition. Qu'est-ce que l'imagerie médicale ? Bien, l'imagerie médicale, c'est un ensemble de méthodes et de techniques qui permettent de produire des images du corps humain dans un double but, un but diagnostique et puis, de façon croissante, un but thérapeutique. Alors, qu'est-ce que l'imagerie médicale ? Bien, c'est aussi une grande aventure. Une grande aventure qui a un siècle, qui a commencé à la fin du 19e siècle avec les rayons X et qui s'est développée de façon discontinue, avec des accélérations, avec des périodes de stagnation. Je vous ai expliqué un petit peu tout ça. C'est une aventure multidisciplinaire où les ingénieurs, les chirurgiens, les cliniciens, les biochimistes, les physiologistes ont dû travailler ensemble, continuent à travailler ensemble, pour répondre à ce souci qui existait déjà dans l'Antiquité, souci d'essayer de voir à l'intérieur du corps humain. Alors, il est vrai que, du temps d'Hippocrate, bien voir à l'intérieur du corps humain, ça consistait à faire des autopsies et regarder ce que se trouvait derrière la peau, sous la peau. Léonard de Vinci, un grand anatomiste, finalement, à la fin du XVe siècle, a passé beaucoup de temps à faire ses schémas et ses dessins fantastiques. Il était lui aussi extrêmement intéressé, voire obsédé, par essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur du corps humain, il aurait été probablement très surpris de voir qu'aujourd'hui, son rêve, et celui d'Hippocrate aussi, celui de voir à l'intérieur du corps sans nuire, bien ce rêve était devenu une réalité. Voici une image du corps humain, une image du corps humain qui montre que l'homme est devenu transparent. Il est devenu transparent sur le plan de son anatomie, et je vais vous montrer aussi qu'il devient transparent sur le plan des fonctions des différents organes, il devient aussi transparent sur le plan des réactions chimiques qui font fonctionner l'ensemble du corps humain, ce que l'on appelle le métabolisme. Alors, il y a toute une série de méthodes qui sont classiquement exposées et qui concernent toute l'imagerie médicale. Alors, on a l'habitude de faire deux grandes classes, les méthodes qui fonctionnent avec comme base des radiations ionisantes, les rayons X, je reviendrai dans un instant, les isotopes radioactifs, donc toutes les méthodes de scintigraphie, au thallium, à l'iode, technétium, la tomographie par émission de positons. Je ne parlerai absolument pas de cette partie-là, qui est la médecine nucléaire, puisque dans trois jours, je crois que c'est le 19 ou le 20, il y aura un exposé totalement consacré à la médecine nucléaire. Et puis ensuite, il y a les radiations dites non ionisantes, c'est-à-dire des radiations de faible énergie, les ultrasons, et puis les champs magnétiques et les radiofréquences. Bien, les ultrasons, toutes les mères de famille dans cette assistance savent ce que c'est. C'est ce qu'elles ont subi, entre guillemets, comme examen lorsqu'elles étaient enceintes, c'est l'échographie. C'est aussi l'écho Doppler pour mesurer des débits sanguins dans les artères. C'est aussi l'échocardiographie qui permet de regarder de très près le cœur. C'est aussi, de façon croissante, une imagerie qui devient une imagerie à haute résolution. Il y a un groupe, plusieurs groupes français extrêmement actifs dans l'imagerie par ultrason, notamment à Paris, avec Geneviève Berger et Pascal Augier. Par ultrason, on arrive à faire des images de la cornée, des images de l'œil, à très haute résolution. On arrive aussi à mesurer la densité osseuse, et un appareil a même été construit pour mesurer le contenu minéral osseux et la densité osseuse dans le cadre du dépistage de l'ostéoporose. Puis ensuite, il y a les champs magnétiques, donc, dont je vais parler beaucoup plus en détail dans un instant. Alors, tout a commencé en 1895 avec la découverte des rayons X par Röntgen, prix Nobel en 1901. Et cette découverte des rayons X a très rapidement été appliquée à l'imagerie médicale, bien que les rayons X n'aient pas été découverts pour faire ce genre de cliché. Alors, ceci, c'est la main de l'épouse de Röntgen. C'est considéré comme la première image par rayons X. Et c'est une image qui est en fait une ombre chinoise, parce que cette radiologie conventionnelle par rayons X, c'est une radiologie où, en fait, on a un émetteur de rayons X, il y a l'objet que l'on analyse, qui sera le corps humain ou la main que vous avez vue, et puis ensuite, selon la densité des différentes structures à l'intérieur de cet objet, eh bien, on aura un blocage plus ou moins important du faisceau de rayons X, et ce que l'on obtiendra ici, c'est une image qui va être le négatif, donc les os vont retenir avec une haute densité énormément les rayons X, et puis ensuite les structures aériques vont les laisser passer totalement. Alors si on regarde 1896 et 1996, 100 ans, bien les choses ont finalement assez peu évolué dans ce type de radiologie conventionnelle. La grande évolution, c'est que certainement ici, la dose, de façon sûre, la dose de rayons X qui a été administrée est extrêmement inférieure. On a un meilleur contraste, mais il n'y a rien de très spectaculaire. Ce qui est très spectaculaire dans les rayons X, c'est que l'on est passé en 1970, donc, vous voyez, 70 ans, 80 ans après l'introduction des rayons X, à quelque chose de beaucoup plus sophistiqué et qui a totalement révolutionné ce type de radiologie. Ici, nous sommes dans une situation tout à fait classique où l'objet, en l'occurrence ici, le corps de ce patient, de ce sujet, va faire un écran plus ou moins modulé au vaisseau de rayons X, ceci va se traduire sur le moniteur par une image. Eh bien, en 1970, on a commencé à faire bouger tout ça, c'est-à-dire que les détecteurs et l'émetteur, dont le tube de rayons X, va commencer à bouger autour du patient. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir obtenir des projections, et au lieu de passer les patients et obtenir des clichés en deux dimensions, on va commencer à avoir une notion de sélection tridimensionnelle dans le volume. Et puis, de façon un peu plus récente, ce qu'on appelle le scanner hélicoïdal, on fait aussi bouger le lit du patient, et donc on a en même temps une rotation de l'émission et de la détection, en même temps synchronisée à au mouvement latéral du lit du patient, ce qui veut dire que l'on va avoir une acquisition en forme d'hélice, et c'est une acquisition volumique. Alors voilà la grande révolution. C'est une révolution avec ce qu'on appelle le scanner à rayons X. Et ce scanner à rayons X a un certain nombre d'avantages par rapport à la radiologie conventionnelle. C'est un procédé où on va avoir des coupes tomographiques. Tomo sont les coupes. On va bien sûr améliorer la densité. Au lieu d'avoir une échelle de densité qui est de 1 à 4, c'est-à-dire soit de l'air, soit de la graisse, soit des os, soit du calcium, on va avoir ici une échelle de densité beaucoup plus importante, ce qu'on appelle l'échelle de Hounsfield. On va bénéficier totalement de la numérisation des images, et puis on va pouvoir reconstruire enfin des structures tridimensionnelles à partir de cette acquisition en spirale. Alors pourquoi est-ce que je dis tout ça? Eh bien, je dis tout ça, donc ça c'est uniquement pour vous rappeler qu'en radiographie conventionnelle, nous avons uniquement 4 niveaux de contraste, air, graisse, eau, calcium, et puis que dans l'échelle que l'on a sur un scanner, on a de plus 1000 à moins 1000 unités, ce qui veut dire que si en radiologie conventionnelle, ici, nous avions deux structures de même densité et qui apparaissaient comme de même densité, elles vont apparaître comme de densités différentes en scanner X, ce qui veut dire qu'on va avoir une meilleure, bien sûr, résolution au niveau des contrastes. Alors, je dis tout ça pourquoi? Eh bien, parce que, et j'y reviendrai un peu plus tard, Ce développement en scanner X n'a pas du tout été planifié. Et ça, c'est une constante dans l'imagerie médicale. Tous les développements n'ont jamais été planifiés. Il s'est trouvé que M. Hounsfield, aux alentours des années, fin des années 60, début des années 70, a eu cette idée de développer un tomodensitomètre à rayons X. Et ceci était véritablement une amélioration qui n'était pas une amélioration marginale, c'était véritablement une petite révolution. Et dans la progression, alors sans faire de l'épistémologie, mais dans la progression des techniques d'imagerie médicale, il y a toujours eu apport de l'extérieur pour faire progresser les différentes méthodes. Alors ceci, c'est une image classique, hein, obtenue en imagerie par scanner X, avec donc le scanner obtenu sur le rachis lombosacré, avec une parfaite délination des vertèbres, ici les disques intervertébraux. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que cette image, elle est totalement numérisée. Et ce que je dis pour le scanner X est valable pour toutes les méthodes d'imagerie moderne. Ces méthodes sont toujours basées sur l'analyse des images quantitatives obtenues à partir des pixels, c'est-à-dire que l'image va être transformée en une matrice, c'est une matrice de pixels, donc des éléments de l'image, et à chacun de ces pixels va être attribué un certain nombre de chiffres qui vont par exemple traduire une intensité de gris, une intensité dans une échelle de gris. Et voilà ce que ça donne. Si vous regardez une image à la loupe, vous apercevez que cette image, c'est une succession de petits carrés qui vont être plus ou moins gris, plus ou moins blancs. Et ces petits carrés constituent une matrice, ce qu'on appelle une matrice de pixels. Alors ces pixels que vous voyez sur l'image en deux dimensions, en fait, ils proviennent d'une tranche. Cette tranche, c'est un volume élémentaire, donc que l'on appelle aussi un voxel, donc un mot que l'on a fabriqué un petit peu à l'identique du pixel, mais pour un volume. Et toute image va être traduite par cette matrice de pixels ou de voxels. Et au plus il y aura de pixels et de voxels dans la définition de cette matrice, au plus l'image bien, sera belle, sa résolution sera importante. Donc, un autre avantage, c'est que ces différentes matrices, eh bien, on va pouvoir les traiter, ce qu'on appelle le traitement de l'image, pour faire des choses tout à fait remarquables, et ce sera les derniers clichés que je montrerai sur la scanographie X, eh bien, on va pouvoir, dans ce cas-là, reconstruire en trois dimensions. Vous voyez, ceci, ce sont les carotides. Là, vous voyez le bas du crâne. Donc, on arrive à faire un traitement d'image, un traitement tout à fait remarquable, qui permet, par exemple, d'extraire d'une acquisition en trois dimensions, par exemple, le cœur. Donc, ce n'est pas du tout une image virtuelle, c'est une image qui a été extraite d'une acquisition tridimensionnelle par un scanner hélicoïdal, où vous voyez, bien sûr, une grosse partie du cœur, les gros vaisseaux, le départ de l'aorte, etc. Alors, voilà pour la radiologie X et le saut quantique suivant, eh bien, nous le devons à Félix Bloch et Edward Purcell, qui, en 1945-46, ont découvert le phénomène de résonance magnétique nucléaire. Et donc, je passerai le reste de cet exposé à vous parler de résonance magnétique nucléaire dans toutes ses modalités. Ce sont deux physiciens qui, bien sûr, à cette époque-là, ne pensaient absolument pas à l'IRM, à l'imagerie par résonance magnétique, ou à la SRM, la spectrométrie de résonance magnétique. C'est des physiciens qui essayaient en fait de mesurer le moment magnétique des noyaux. Et puis, en essayant de mesurer ce moment magnétique des noyaux, ils ont découvert ce phénomène de RMN, dont je vais vous parler de façon un peu plus précise dans un instant. La RMN n'est pas entrée dans le domaine médical par hasard. C'est une lente évolution où, à partir de la physique, on a utilisé la RMN en chimie. Et la RMN, au jour d'aujourd'hui, continue à être une méthode de base pour l'élucidation des structures des molécules, et puis ensuite à la biologie, c'est-à-dire en travaillant avec des molécules de plus en plus grosses, des protéines, des acides nucléiques. Et puis lorsque les progrès technologiques ont été suffisamment importants et significatifs, eh bien c'est le début des années 70, l'introduction de la micro-informatique massive qui va permettre de passer aux applications à l'homme. Donc une science relativement nouvelle, une trentaine d'années, qui a donné lieu à un nouveau prix Nobel, celui de le Nobel de chimie de Richard Ernst, notamment pour ses contributions au traitement des signaux qui permettent d'obtenir des images du corps humain. Alors, quelles sont les grandes applications en médecine du phénomène de résonance magnétique ? Eh bien, elles sont listées ici. Il y a tout d'abord l'IRM morphologique, donc comment obtenir des clichés anatomiques, et puis Une IRM dynamique, un peu moins connue, et sur laquelle j'insisterai un peu, puisque c'est un peu le rôle de ce type de conférence, c'est de vous montrer ce qu'il y a de vraiment nouveau et de prometteur. L'IRM fonctionnel, dont vous avez déjà entendu parler dans ces cycles de conférences et qui devient une méthode de choix d'exploration du cerveau, notamment des différentes fonctions cognitives du cerveau. Et puis, un nouveau venu, pas tellement nouveau pour les spécialistes, mais un peu plus nouveau pour les utilisateurs dans le domaine clinique, la SRM, la spectrométrie de résonance magnétique, qui permet pour la première fois d'étudier en direct, sans avoir à recourir à une biopsie, à une chirurgie, donc sans prélèvement, permet pour la première fois d'obtenir des données extrêmement précises sur les réactions chimiques qui se produisent dans les tissus et dans les organes. Alors, illustration rapide des différentes modalités, bien voilà l'IRM anatomique, dont des clichés en sagittal, en axial, en coronal, d'une très grande qualité, on y reviendra. Un peu moins connu, ce qu'on appelle l'angiographie, donc la possibilité de visualiser le système vasculaire, ici ce sont les vaisseaux du crâne, la spectroscopie, dont je parlerai, donc la possibilité de localiser à l'intérieur du cerveau, en trois dimensions, une zone d'intérêt et d'obtenir ce que l'on appelle un spectre. Et ce spectre contient des informations sur les différentes molécules chimiques qui sont présentes dans le tissu. Et puis, l'IRM fonctionnel, dont je parlerai un petit peu si j'ai le temps à la fin de l'exposé, et qui est cette possibilité de visualiser, là encore de façon totalement achromatique, les aires du cerveau qui sont, par exemple, impliquées dans le langage, dans la vision, dans la perception, dans la réflexion. Alors, parlons du phénomène de RMN. Alors, le phénomène de RMN, je vais essayer de vous expliquer ça en une dizaine de minutes, de façon aussi simple que possible, et puis vous me direz dans la discussion si c'était compréhensible ou non. Bien, tout organe, c'est en fait un regroupement de cellules, quel que soit l'organe, il y a toujours des cellules qui le constituent. Alors, si on regarde de très près ces cellules, avec une loupe, eh bien, on s'aperçoit que ces cellules, c'est avant tout des molécules d'eau. Et notre corps, en moyenne, c'est, je crois, 68-70% d'eau. Alors, bien sûr, si vous regardez une structure osseuse, il y a très peu d'eau, hein, ou les dents, ou les cheveux. Mais il y a, bien sûr, d'autres organes, les muscles, le cœur, le cerveau, qui sont très riches en eau. Donc, c'est en fait le constituant cellulaire numéro un dans le corps humain. Bien, tout le monde connaît suffisamment de chimie. L'eau, c'est H2O, c'est deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Et si on regarde de très près cet atome d'hydrogène, eh bien, on s'aperçoit que le noyau de cet atome d'hydrogène, que l'on appelle le proton, eh bien, se comporte en fait comme une charge en mouvement sur son axe, ce qu'on appelle un mouvement de spin, S-P-I-N, le mot anglais pour dire rotation, et le fait que cette charge électrique tourne autour de son axe va engendrer pour ce proton, pour ce noyau de l'atome d'hydrogène, des propriétés très particulières. Ce sont des propriétés d'équivalence à un petit aimant. Donc ce noyau de l'atome d'hydrogène, ce proton, est en fait équivalent sur le plan de sa structure globale, un petit aimant avec un pôle sud et un pôle nord. Alors ça a été la première observation de Bloch and Purcell, qui, de façon simultanée, dans deux sites tout à fait différents, sur la côte est et l'autre sur la côte ouest des États-Unis, ont fait la même observation. Alors cette observation, elle est, on peut la, de façon complémentaire, expliquer comme ceci. Donc, vous avez compris que tous ces protons sont équivalents à des petits aimants, donc un petit dipôle magnétique, que j'ai symbolisé ici par ces vecteurs. Ces dipôles magnétiques vont s'orienter dans les trois directions de l'espace de façon totalement aléatoire, c'est ce que j'ai fait figurer ici. Bien, si l'on place cet échantillon dans un champ magnétique important, que par convention on appelle B0, bien ces différents dipôles magnétiques, ces petits aimants, qui sont en fait les noyaux des atomes d'hydrogène, vont s'orienter, vont avoir tendance à s'orienter avec ce champ magnétique. C'est un petit peu comme la boussole, l'aiguille de la boussole, qui s'aligne dans le champ magnétique terrestre. Donc il y a un effet d'organisation de ces différents spins, de ces différents noyaux, dans le champ magnétique B0. Bien, si l'on applique un champ de radiofréquence, c'est-à-dire quelque chose que vous connaissez, hein, une radiation électromagnétique dans la gamme des mégahertz, à cette population de noyaux qui est déjà organisée, on dit polarisée par le champ B0, bien, un certain nombre de ces noyaux vont être perturbés par cette radiofréquence. Alors essayons d'expliciter un peu les choses, ce sera véritablement la seule diapositive de pseudo-physique que je vais vous imposer. Bien, le phénomène de résonance magnétique, en termes d'énergie, on peut le concevoir de la façon suivante. Lorsqu'on place dans un champ magnétique des protons, bien ces champs magnétiques, dans ce champ magnétique, les protons peuvent accéder à deux niveaux d'énergie, un niveau bas, qu'on appelle E-alpha, un niveau plus haut, que l'on appelle E-bêta. Cette différence d'énergie entre les deux niveaux est extrêmement faible. Et ça, c'est la grande force de la RMN, de l'IRM et de la SRM, c'est quelques millijoules. Vraiment tout juste au-dessus de l'agitation thermique. Si on fournit à ces protons qui sont dans l'état alpha le quantum d'énergie H nu qui est juste nécessaire pour les faire passer à l'état bêta, eh bien, ils vont changer de niveau d'énergie. C'est ce qu'on appelle une transition énergétique. C'est le phénomène de RMN. Comme delta E est très faible, eh bien, la radiation nécessaire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en utilisant un argument d'autorité, est d'énergie extrêmement faible, quelques millijoules, et donc la radiation électromagnétique elle-même sera d'énergie très faible, nous sommes dans la gamme des radiofréquences. Alors, le passage de l'état de faible énergie à l'état de haute énergie, c'est la résonance, et puis lorsque ces spins nucléaires, ces protons, dans le cas de l'IRM, sont dans cet état, ils vont pouvoir relaxer, c'est-à-dire fournir au milieu environnant leur excédent d'énergie pour revenir dans l'état fondamental. Donc on va avoir ces deux phénomènes de résonance et de relaxation qui sont à la base de l'expérience de résonance magnétique, mais qui sont aussi à la base de l'imagerie par résonance magnétique. Alors une diapositive très importante qui est la comparaison des énergies. J'ai ici indiqué les différentes fréquences des radiations électromagnétiques et là les différentes énergies associées. Bien, lorsqu'on parle d'imagerie à rayons X ou d'imagerie isotopique, on est dans une gamme de très haute énergie. On est à 10 puissance 8, 10 puissance 9, c'est-à-dire 1 000 millions, 1 000 milliards de joules par mol. Et puis, lorsqu'on est dans les ondes hertziennes, dans les ondes radio, c'est-à-dire le domaine qui nous intéresse ici, IRM, SRM, vous voyez qu'on est dans 10-2, 10-3. Donc, vous avez une différence d'énergie entre 10-3 et 10 puissance 9 qui est considérable, 1 000 milliards. Et donc ça, c'est la grande force de l'IRM, et c'est une des raisons pour laquelle elle a pénétré aussi rapidement dans le milieu médical, parce que nous avons là une technique d'imagerie qui est totalement non-invasive. On ne fait courir aux patients aucun risque, on peut faire des examens d'IRM répétés, y compris sur la femme enceinte, je vous montrerai ça dans un instant, sans faire courir le moindre risque à l'intégrité de la cellule. Alors, pour faire une expérience de résonance magnétique, il va nous falloir un aimant, il va nous falloir un émetteur d'ondes radio, et puis il nous faudra une chaîne de réception pour récupérer les signaux de ces spins que l'on a excités et qui vont relaxer. Et c'est à partir de l'analyse de ces signaux, qui va être une analyse codée en trois dimensions, que l'on va pouvoir déduire la définition d'une image de résonance magnétique. Alors, les champs magnétiques que l'on utilise sont des champs relativement élevés, en général aux alentours de 1 Tesla ou un peu plus. Ceci fait pour 1 Tesla, qui est l'unité de champ magnétique, 20 000 fois le champ terrestre. Et on utilise pour ceci, bien soit des aimants, des électro-aimants, c'est-à-dire on va faire passer dans des bobines de cuivre du courant, et puis c'est le problème du solénoïde de classe terminale, hein, ça. Donc selon l'axe, eh bien, il arrive. On va observer un champ magnétique qui va être créé. Et puis, de façon de plus en plus fréquente, c'est la technique des aimants supraconducteurs qui est utilisée, où on va, dans ce cas-là, se baser sur une propriété de certains alliages, par exemple l'alliage entre le niobium et le titane, qui va permettre d'obtenir des champs magnétiques extrêmement élevés et stables, à condition que la bobine de ce fil supraconducteur soit placée dans de l'hélium liquide. Alors voici cet aimant qui est maintenant habillé dans un scanner d'IRM classique. Donc ces aimants sont maintenant de plus en plus courts, de plus en plus agréables, avec de moins en moins d'effets de claustrophobie. Il existe aussi des aimants qui sont totalement ouverts et qui sont bien sûr des aimants extrêmement intéressants parce qu'ils vont permettre, par exemple, un accès d'un patient allongé et éventuellement une chirurgie à l'intérieur du système. Pour obtenir des signaux, bien, il nous faut des antennes. Ces antennes seront par exemple des antennes pour le crâne, des antennes pour l'abdomen. Donc, ces antennes pour le rachis vont nous donner ce type d'image, hein, où vous retrouvez l'information qu'il y avait sur le cliché de scanner X tout à l'heure, mais beaucoup plus détaillée. On peut avoir des antennes pour les extrémités, ici pour le genou ou pour le bas de la jambe. On peut avoir des antennes pour l'œil, des antennes pour les seins, qui permettent d'avoir des clichés comme ceci. Vous verrez ici, par exemple, un implant mammaire qui est en bonne condition, et puis ici un implant mammaire qui est en train d'avoir des problèmes de stabilité. Et puis, si l'on veut aller un peu plus loin, comment obtient-on ce signal ? Nous l'avons vu avec l'antenne, mais comment, à partir de ce signal, va-t-on reconstruire une image ? Eh bien, l'image, elle est formée à partir de la distribution dans les trois dimensions de l'espace des différentes molécules d'eau, H2O, hein, donc de ces protons des différentes molécules d'eau, que l'on va savoir coder en trois dimensions. Alors, comment fait-on pour coder ? Eh bien, on va, à côté du champ B0, appliquer dans les trois dimensions de l'espace des gradients de champ magnétique. Et appliquer des gradients de champ magnétique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à côté de ce champ magnétique stationnaire, on va avoir, en tout point de l'espace, se rajouter une contribution additionnelle, un champ magnétique qui va varier, par exemple ici, en fonction de la distance. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que deux points différents du corps ne vont pas être soumis exactement au même champ magnétique. Et s'ils ne sont pas soumis exactement au même champ magnétique, bien ça veut dire qu'ils auront des conditions de résonance pour ce phénomène de RMN qui seront légèrement différentes. Et il suffira de coder de façon astucieuse, par exemple avec une petite gamme de radiofréquences et dans ce gradient ici de l'onde B0, de coder cette direction pour n'exciter, avec la radiofréquence indiquée, que les spin nucléaire, que les protons, que les noyaux atomes d'hydrogène de cette tranche que j'ai fait figurer ici en rouge. Et puis cette tranche, on peut la déplacer où on veut, on peut la déplacer sur le cerveau, on peut la déplacer ici de façon un peu plus visuelle pour montrer que l'on va exciter sélectivement, hein, par la radiofréquence une zone donc, qui va être une tranche, hein, ici un axial, qui correspondra à la condition de résonance parfaite, l'association entre le champ magnétique et la radiofréquence, le reste du volume ici étant dans une zone de désaccord, donc ne contribuant pas au signal. Alors on le fait en trois dimensions, ici Y et Z, et avec des projections qui vont être ici par exemple des coupes transversales, et puis ici une coupe coronale, et puis on pourra avoir aussi une coupe sagittale, donc dans toutes les directions de l'espace, et en oblique si on le souhaite. Alors le contraste en IRM est un point important. Vous avez vu tout à l'heure, et c'est un peu pour ça que j'ai parlé des rayons X, on était très limité dans les rayons X. C'est en fait des ombres chinoises, hein, les rayons X. On a un faisceau qui est plus ou moins arrêté par les structures. Dans le cas de l'IRM, eh bien, c'est beaucoup plus complexe parce que le contraste est déterminé à la fois par l'état des molécules d'eau, donc ce sont des conditions physico-chimiques, les différents temps de relaxation qui vont rendre compte du retour après l'excitation de ces protons à leur état initial dans les différentes orientations de l'espace, la densité de ces noyaux, les mouvements éventuels des molécules d'eau, mais aussi on va pouvoir manipuler ces différents noyaux, ces différents spins nucléaires, par des séquences de radiofréquences, des séquences où les gradients de champ magnétique et les radiofréquences sont associés, pour induire des perturbations totalement contrôlées qui vont se traduire par des variations du contraste. Vous voyez par exemple ici, où en fonction des séquences utilisées, voilà, ici les ventricules avaient le liquide céphalorachidien, dans ce cas-là, il est noir, ici il est blanc. Ici vous avez la substance blanche qui est blanche, ici la substance blanche est noire. Ce sont deux états extrêmes qui vous montrent qu'en IRM, on peut véritablement manipuler le contraste des images, je dirais pratiquement à l'infini, et ceci pour arriver à révéler les détails les plus intimes de l'anatomie. Alors parlons de l'IRM morphologique, j'en suis où là, monsieur le Président ? 20 minutes, c'est parfait. Alors, parlons d'abord de l'IRM morphologique. Comment utilise-t-on ces techniques d'IRM pour obtenir des images de qualité ? Eh bien, ces images de qualité parlent d'elles-mêmes. Vous voyez une coupe sagittale, ici, du crâne, où vous voyez tout. Vous voyez le cervelet, vous voyez différentes circonvolutions. Vous voyez ici le corps calleux, là, vous voyez le tronc cérébral, vous voyez aussi les muscles, vous voyez les sinus. Et si vous comparez ça avec une planche anatomique, eh bien, c'est pratiquement la même chose. Je reviens en arrière. Voilà le cliché d'IRM, et voilà la planche anatomique. on est arrivé véritablement avec ce type de technique strictement non-invasive. Hein, n'oubliez pas, pas de rayons X, pas de radiation ionisante, à une qualité anatomique qui correspond à la planche anatomique. Voici un pied où vous voyez non seulement les structures osseuses, mais toutes les structures musculaires, les tendons, les cartilages, la partie derme, épiderme, éventuellement ici les callosités. IRM et SRM, on ne dira jamais assez, sont strictement sans danger, elles sont indolores, elles sont non-invasives, ces techniques. Et pour bien le montrer, eh bien, voilà un cliché qui dit plus qu'un grand discours, c'est un cliché, hein, si vous y habituez un petit peu, vous verrez ce dont il s'agit, hein, pris en quelques minutes, c'est un cliché qui a été pris par nos collègues de l'hôpital Purpan, Claude Manel, Isabelle Berry. Vous voyez, on peut dire d'ailleurs que c'est un petit garçon, vous voyez, qui est à 7 mois, là, dans le ventre de sa mère, hein, un cliché qui ne fait courir strictement aucun danger, où vous voyez absolument tout, vous voyez le cerveau, vous voyez le cervelet ici, vous voyez le cœur, vous voyez tout l'abdomen. Donc il y a là une qualité d'image qui est extrêmement importante, notamment lorsqu'il y a des suspicions de malformations ou d'autres problèmes éventuellement importants à détecter in utero. Est-ce que je peux avoir le carrousel suivant ? Alors ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'à partir de ces images anatomiques, et on n'en est pas resté là, et une des activités les plus importantes actuellement consiste à obtenir ces images de plus en plus rapidement. Ce qu'on appelle l'imagerie rapide. Et cette imagerie rapide est arrivée dans une situation où c'est de l'imagerie en temps réel. Alors si cette machine avait bien voulu s'accorder avec le projecteur, je voudrais montrer comment on fait actuellement sans problème de l'imagerie en temps réel du corps humain. Mais je vais vous montrer uniquement avec des clichés statiques ce que l'on peut obtenir. Pour fixer les idées, on est capable d'obtenir une image, par exemple, du cerveau en 100 millisecondes. Hein, ou une image du cœur en 100 millisecondes, c'est-à-dire 0,1 seconde. Vous voyez, donc c'est extrêmement bref. Et ceci ouvre des horizons, je dirais, sans limite aux applications de la résonance magnétique. Je vais vous parler de l'angiographie. L'angiographie, c'est l'étude des vaisseaux. Cette étude des vaisseaux qui a toujours fasciné, là, à nouveau, les médecins depuis très longtemps. Ça, c'est le début du siècle. Bien, l'étude des vaisseaux, elle se faisait sur les cadavres avec ce fameux mélange. Ce mélange qui est un mélange horrible, hein, où il y a du mercure, du pétrole, de la barite, et on perfusait ceci pour essayer de voir ici apparaître en contraste les différents vaisseaux. Bien ça, on est capable de le faire par IRM sans avoir à injecter quoi que ce soit. Alors, comment s'y prend-on ? Bien, le principe de l'angiographie est relativement simple. Alors, il y a de très nombreuses applications de l'angiographie, de très nombreuses variations. Il en sort pratiquement tous les quelques mois. Mais le principe est souvent basé sur ce que je vous ai indiqué ici. On va saturer, c'est-à-dire appliquer en permanence une radiofréquence, enfin, pendant un certain temps, sur une zone du corps humain où il y a à la fois des structures fixes, par exemple un organe, et puis cet organe va être traversé par un vaisseau. Et ce vaisseau, eh bien, à l'intérieur, il y a du sang. Et ce sang, c'est une structure mobile. Donc, on va initialement, au temps de départ, saturer l'ensemble des protons, donc des noyaux, des atomes d'hydrogène, des molécules d'eau, avec un signal qui sera un signal nul. Et puis, si on attend un petit peu et qu'on continue à observer, eh bien, le sang continue à circuler dans ce vaisseau, que ce soit une artère ou une veine, et donc les spines qui étaient là saturées vont être remplacées dans ce vaisseau par des spines qui, eux, ne sont pas saturées. Et donc, ils vont donner un signal. Donc, le reste de la structure fixe, va apparaître en noir, je dirais, ou en foncé, parce qu'elle donnera très peu de signal. Et par contre, les vaisseaux qui, eux, vont réalimenter dans cette tranche d'observation le détecteur avec des spines non saturées vont donner un signal. Et c'est un des principes de base de l'angiographie par résonance magnétique. Alors on peut améliorer les choses en injectant un produit de contraste, mais un produit de contraste non iodé. Hein, ce n'est pas comme ce que l'on utilise en radiographie ou en scanner X. Ce sont des produits base de gadolinium qui sont strictement sans effet secondaire. Et voilà ce que l'on obtient, par exemple, pour l'ensemble du système vasculaire des gros vaisseaux, vous voyez, en un peu plus d'une minute. Vous voyez ici les sous-clavières, les artères sous-clavières, aussi le cœur, les différentes artères pulmonaires, l'aorte. Là, on descend vers les artères rénales. ici vers la bifurcation avec les deux iliaques. À droite, eh bien, vous voyez les fémorales, et puis ensuite on redescend, et puis ça c'est le bas de la jambe avec les artères tibiales. On obtient ceci en un peu plus d'une minute, ce qui est tout à fait remarquable, à nouveau sans avoir à utiliser de radiation dangereuse. Voilà par exemple une situation pathologique où cette fois-ci on a utilisé pour améliorer le contraste du gadolinium. Et voilà une situation normale, vous voyez ici le bas de l'aorte et puis la bifurcation. À droite, eh bien, on a deux sténoses, une sténose ici au niveau de l'artère rénale droite et puis ici une deuxième sténose au niveau de l'iliaque droite aussi. Donc vous voyez qu'on a, dans ce cas-là, mis en évidence de façon extrêmement simple des problèmes sérieux. On peut faire la même chose sur la crosse de l'aorte, et vous voyez ici, en contraste, cette partie-là qui n'est pas irriguée, hein, noire, eh bien c'est une dissection de la paroi de l'aorte, donc une pathologie extrêmement préoccupante. Et puis on peut faire ça en fonction du temps, ce que j'aurais souhaité vous montrer ici, mais ce sera impossible, mais vous en avez une bonne idée. Ça consiste à faire de l'imagerie en quatre dimensions, c'est-à-dire non seulement on va suivre ce produit de contraste dans le système vasculaire en trois dimensions, mais on va aussi suivre son évolution en fonction du temps. C'est-à-dire que tout début, vous voyez que ce produit de contraste et donc les vaisseaux sont essentiellement au niveau du poumon. Et puis si on attend un petit peu, eh bien, c'est le cœur qui va pousser ce produit dans l'aorte, montante, descendante. Vous voyez ensuite les sous-clavières qui commencent à devenir de plus en plus apparentes. On voit aussi les rénales, les reins, etc. Et puis si on attend encore un petit peu, au lieu d'être les artères, ce sont les veines qui vont être marquées. Donc ici sera la phase artérielle, et puis en fonction du temps, eh bien, on va pouvoir obtenir des clichés qui correspondent au marquage des veines. Donc vous voyez cette possibilité de faire une véritable angiographie sans avoir recours aux rayons X et de façon extrêmement rapide, avec des améliorations constantes. Voilà, sur une période de 6 mois, une amélioration en temps, on est passé de 6 minutes à 30 secondes. Ceci, ce sont les différentes... c'est la vasculature du cerveau. Vous voyez ici la même chose. Bon, ça, c'était une situation normale. Vous voyez les deux sylviennes totalement irriguées et qui apparaissent en contraste. Et puis là, une situation beaucoup plus préoccupante. Vous voyez que sur la partie droite, c'est totalement irrigué, mais sur la partie gauche, hein, nous n'avons absolument pas apparition de ce que nous devrions voir. C'est parce qu'il y a probablement un thrombus ici, que vous revoyez ici, avec la partie ici droite, hein, qui est totalement, probablement, bouchée par un thrombus. Alors, on peut faire la même chose au niveau du cerveau et suivre, par exemple, en fonction du temps, l'apparition d'un produit de contraste dans le cerveau. Alors, on va injecter au pli du coude hein, ce gadolinium ou un de ses analogues, et puis observer pendant eh bien, quelques temps, quelques minutes, sur une coupe qui ici passe juste au-dessus du corps calleux, et on va prendre par des techniques d'imagerie rapide un cliché par seconde pendant une minute, c'est-à-dire 60 clichés, et on va voir la variation du contraste dans cette coupe, et cette variation du contraste, on va pouvoir la traduire en vitesse de perfusion de cette partie du cerveau. Et ça, c'est une donnée extrêmement importante parce que, et je vous le montrer dans un instant, par exemple, tout ce qui va être accident ischémique cérébral va, bien sûr, pouvoir être documenté de façon extrêmement précise par ce type de technique. Vous voyez ici ce qu'on appelle le temps de transit moyen. On va faire une image paramétrique du cerveau où, ici, sur cette partie-là, hein, qui est bleu foncé, on a un temps de transit normal. Ici, on aura un temps de transit ralenti. Il est ralenti pourquoi ? Parce qu'il y a un accident ischémique qui s'est produit, que vous voyez ici en imagerie dite de perfusion, petit à petit. Vous voyez le reste, ici, l'hémisphère droit. Hein, je vous rappelle qu'en radiologie, la droite et la gauche, hein, lorsqu'on regarde, c'est-à-dire on fait face au patient, donc ça, c'est la partie droite du patient qui est à notre gauche. Donc ça, c'est l'hémisphère, vous voyez, qui est atteint. Et effectivement, si on regarde la perfusion, on a une hypoperfusion de cet hémisphère qui correspond à ce problème ischémique. Alors la diffusion, ça consiste à étudier les molécules d'eau, non pas dans un grand vaisseau, mais à l'intérieur des tissus. Et c'est une nouvelle approche, un nouveau domaine, où on va mesurer les mouvements microscopiques de l'eau dans les tissus. Alors ça, c'est important, parce que dans les tissus lésés, alors on a des méthodes pour le faire, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, on est capable, à l'intérieur d'un tissu, au niveau microscopique, de faire la différence entre les protons des molécules d'eau mobile et stationnaires. Alors je vous disais que c'était important parce que lorsqu'un tissu est lésé, eh bien, on s'aperçoit très rapidement que, par exemple, les pompes ioniques qui permettent les transferts de molécules d'eau ou les transferts d'ions à travers les membranes de ces cellules sont altérés, et très rapidement, la mobilité des molécules d'eau au niveau microscopique est altérée. Bien, dans une zone ischémique, ça c'est un accident vasculaire massif, dans une zone ischémique comme ceci, bien, on voit que la diffusion est extrêmement modifiée. C'est ce qu'on appelle une image de diffusion qui va nous renseigner en fait, sur l'état au niveau de la lésion, hein, sur l'état discret de ce tissu. Dans ce cas-là, nous pouvons dire que c'est un état qui est extrêmement, avec un pronostic extrêmement péjoratif. Alors, on peut essayer d'intégrer un peu toutes ces données que je viens de vous donner en vrac là, hein, sur une situation réelle, c'est-à-dire l'IRM anatomique, l'IRM de perfusion, l'IRM de diffusion, l'angiographie. Situation réelle, eh bien, j'ai choisi les accidents vasculaires cérébraux, problèmes de santé publique, 125 000 nouveaux cas par an, troisième cause de décès, première cause de handicap. 80% de ces accidents sont des accidents ischémiques, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné un défaut de perfusion du cerveau. Il y a un défaut d'apport d'oxygène, un défaut d'apport d'éléments nutritifs qui permettent normalement au cerveau de fonctionner. Et ce défaut est souvent dû à la formation d'un thrombus, hein, c'est-à-dire un petit bouchon en quelque sorte, qui va boucher une artère, par exemple l'artère sylvienne, et qui va pendant un certain temps, et de façon irréversible si on n'intervient pas à temps, eh bien, entraîner une baisse hein, de la perfusion sanguine, de la circulation sanguine dans le cerveau, avec des lésions irréversibles. Alors, un des traitements importants qui est en cours d'évaluation, c'est la thrombolyse. Ça consiste à essayer de dissoudre le caillot par des agents thrombolytiques, un petit peu comme cela est fait pour les infarctus, hein, par les cardiologues. Alors, le problème, c'est qu'il faut avoir une évaluation extrêmement rapide de la situation véritable. Eh bien, pour pouvoir administrer ce type de thrombolyse, et ceci doit être fait avant la troisième heure suivant l'accident, eh bien, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient respectées. Un volume de parenchyme ischémié doit être inférieur au tiers, voyez, de l'ensemble de la zone vascularisée ici. Donc, il faut que ce ne soit pas plus grand que le tiers de ceci. Il faut être sûr que c'est un tissu qui est ischémié. Il faut être aussi sûr qu'il n'y a pas d'hémorragie, parce que si on met un agent thrombolytique sur un tissu hémorragique, et bien sûr, on va faire exactement le contraire de ce que l'on veut, on va aggraver la situation. Eh bien, en quelques minutes, une exploration multimodalité par résonance magnétique permet de faire le bilan. Eh bien, en angiographie, avec une simple injection, donc l'hypothèse étant ici que, malheureusement, ça se voit assez mal, voilà, ici c'est l'encéphale, l'artère sylvienne, et puis l'hypothèse est qu'il y a ici un thrombus, bien, l'arrêt de la circulation va entraîner une hypoperfusion. Cette hypoperfusion, on va essayer d'abord de s'assurer qu'elle est due à un thrombus, et puis on va essayer de la délimiter. Bien, là, on a déjà un renseignement. Vous voyez ici qu'au niveau des vaisseaux du crâne, c'est comparable à l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, eh bien, il y a ici un déficit de perfusion. Vous voyez que cette artère sylvienne gauche, hein, qui est à droite ici, n'est absolument pas irrigué comme cela devrait être. Et si on regarde plus bas au niveau des carotides, hein, donc ici ce sont les deux carotides avec la bifurcation, bien on s'aperçoit que, vous voyez, sur la carotide gauche, eh bien, il n'y a pas une irrigation normale, il y a probablement un thrombus ici. On fait une IRM de perfusion, l'IRM de perfusion montre effectivement qu'il y a ici une hypoperfusion. Alors ce que l'on veut savoir maintenant, c'est est-ce qu'il y a une zone ischémie là-dessous? Parce que dire qu'il y a une hypoperfusion ne veut pas dire forcément que le tissu est irréversiblement lésé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quelle est l'étendue à l'intérieur de cette zone donc hypoperfusée, qu'on appelle globalement la zone de pénombre, quelle est l'étendue de la zone ischémique que j'ai montrée ici. Eh bien, la zone ischémique, c'est l'IRM de diffusion, donc cette technique qui permet de regarder au niveau microscopique les mouvements des molécules d'eau, qui va la délimiter. Et cette IRM de diffusion, eh bien, elle n'a aucune compétition. Parce que dans la première heure suivant l'accident, bien en IRM de diffusion, on voit, vous voyez, cette zone-là qui montre que le coefficient apparent de diffusion a été modifié. Mais pour voir une modification par les techniques d'IRM classiques, il faudrait au moins 6 heures. Et par un scanner X, il faudrait 12 à 24 heures, ce qui est beaucoup trop si on laisse s'installer les lésions eh bien, on aura une situation d'irréversibilité. Donc on est dans une situation où on doit s'assurer aussi qu'il n'y a pas d'hémorragie. Et pour s'assurer qu'il n'y a pas de saignement, eh bien, on a une technique qu'on appelle l'IRM flash en T2 étoile qui permet, ici c'est un cas de, je dirais, cas d'école où on suppose qu'ici il y a effectivement un saignement, eh bien ce saignement il apparaît ici. Et donc l'imagerie flash en T2 étoile permet de décider si oui ou non il y a un saignement. Eh bien, l'ensemble de cette évaluation se fait en 10 minutes. Se fait en 10 minutes, en géographie pour s'assurer qu'il y a un thrombus, l'IRM de diffusion pour regarder où est la zone ischémiée, l'IRM de perfusion pour regarder si autour de la zone ischémiée, cette zone de pénombre est étendue ou non, et puis ensuite, avant d'administrer le thrombolytique, s'assurer par IRM flash T2 qu'il n'y a pas de saignement. Bien, l'importance de ce type d'approche, c'est colossal. Cette exploration intégrée par RMN des accidents ischémiques en phase aiguë, elle est possible dans les conditions d'urgence, je vous l'ai montré. En moins d'un quart d'heure, on fait un bilan total. Et on en arrive à devoir recommander cet IRM en première intention pour tout accident vasculaire cérébral, parce qu'il faut arriver, comme je vous l'ai dit, à s'assurer du statut exact du patient dans les meilleurs délais pour être sûr qu'il n'y a pas d'autre pathologie et qu'il y a effectivement un accident ischémique. S'assurer aussi qu'il n'y a pas d'hémorragie, à ce moment-là, ce serait une contre-indication pour les thrombolytiques. Et puis, c'est la méthode de choix pour effectivement quantifier l'action des neuroprotecteurs. Voilà, pour finir cet exposé, donc il doit me rester une dizaine de minutes, c'est ça? Ah bon, ben, je vais aller un peu plus vite alors. Je vais vous parler de spectrométrie par résonance magnétique, qui est la dimension métabolique des choses. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste à sélectionner une partie du cerveau et à obtenir ce qu'on appelle un spectre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un spectre et comment l'obtient-on? Alors, pour sélectionner la partie que l'on veut du cerveau, eh bien, c'est relativement simple. On sait faire ceci par des méthodes de coupe sélective. On va appliquer une première coupe dans une direction, une deuxième coupe dans la direction perpendiculaire. Donc, on aura sélectionné ce parallélépipède ici. Et puis, une troisième coupe dans la direction à nouveau perpendiculaire, on aura un cube. Et ce cube, on peut l'orienter où on veut dans l'espace. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Ensuite, passer quelques minutes à vous expliquer ce qu'est un spectre. Et puis après, nous verrons ce qu'on peut en faire en se pressant. Bien, lorsqu'on place dans un aimant une bouteille d'eau, ce qui correspond au corps humain finalement, c'est essentiellement de l'eau, bien, tous ces atomes d'hydrogène, tous ces noyaux d'atomes d'hydrogène sont chimiquement équivalents à H2O, c'est toujours H2O. Et donc, en résonance magnétique, on aura un seul signal qui correspond à ces noyaux qui forment une classe homogène. Si maintenant, au lieu de mettre une bouteille d'eau, on met une bouteille d'alcool, d'éthanol, bon, sans être chimiste, CH3, CH2OH, voilà la formule de l'éthanol, mais vous voyez que vous avez des atomes d'hydrogène ici, sur le méthyl, sur le méthylène et sur la fonction alcool. Ils sont de nature chimique différente, ils sont en quantité différente, ils vont donner des résonances à des positions différentes parce qu'ils vont se comporter comme des espèces chimiques différentes. Donc, sur cet axe-là, ce qui est un axe de fréquence, on va pouvoir repérer les différentes classes chimiques. Et puis, sur l'axe que vous voyez ici, l'axe des intensités, bien, vous voyez que ces trois signaux ne sont pas de même intensité. Ils ne sont pas de même intensité parce qu'ici, il n'y a qu'un proton, il y en a deux, et là, il y en a trois. Alors ça, c'est extrêmement important parce que non seulement on va pouvoir identifier sur cet axe-là le type de noyau et le type de composé qui donne naissance au signal, mais on va aussi pouvoir, dans cet axe-là, doser la quantité correspondante. Bien, c'est exactement ce que l'on va faire sur le cerveau. Vous voyez par exemple le N-acétylaspartate. Le N-acétylaspartate, c'est un composé du cerveau qui est présent spécifiquement dans les neurones, une formule, peu importe laquelle, où il y a différentes classes de protons qui vont donner des signaux très séparés. Un autre composé cérébral, la choline, une autre formule, ces protons-là du groupe triméthylammonium vont donner un signal, une position différente. Et puis vous ajoutez la créatine, qui est aussi présente dans le cerveau, même histoire, des signaux correspondant et spécifique à cette molécule. Si on mélange les trois, et ceci c'est un mélange artificiel, eh bien vous allez avoir sur ce spectre des signaux à des positions différentes caractéristiques de ces trois métabolites. Eh bien dans le cerveau, et c'est la magie de la SRM, de la spectrométrie, on est capable de détecter les signaux que je viens de vous montrer, qui étaient des signaux obtenus dans un tube à essai, parce qu'on avait mis les composés dedans, eh bien ces signaux, on va les être capable de les détecter sur le cerveau lui-même. Et ce spectre-là, c'est un spectre réel sur un jeune adulte de 18 ans, où dans ce petit volume d'intérêt que je vous avais montré sur les clichés précédents, on est allé extraire cette information de spectre, qui est aussi une information métabolique. Nous avons ici un certain nombre de signaux dont je vais rapidement vous donner la signification. Le N-acétylaspartate est un marqueur des neurones. Toute souffrance des neurones va se traduire par une baisse de ce signal. Donc on aura ici, et on a effectivement un marqueur de la souffrance neuronale. La phosphocréatine et la créatine, ce signal-là, correspondent à la densité cellulaire. La choline est un composé des membranes dont tout processus d'altération des gaines de myéline, démyélinisation, va se traduire par une variation de ce signal. Et enfin, l'inositol est un signal qui est uniquement présent dans les cellules gliales et qui va nous donner une indication précise sur l'activation de ces cellules. Alors on est dans une situation extrêmement chanceuse où les deux grands groupes cellulaires du cerveau, les cellules gliales et les neurones, sont en fait suivis sur un spectre de résonance magnétique par des signaux qui sont caractéristiques de ces localisations cellulaires. Alors c'est vraiment un coup de chance parce que personne n'aurait prédit ce type de situation. Mais c'est une situation maintenant qui est exploitée depuis quelques années de façon extrêmement intense pour explorer les maladies du cerveau, donc les neuropathologies. Alors, je vous donne quelques exemples. Voici cet accident vasculaire cérébral dont on a parlé un peu plus tôt. Eh bien, si on place le signal d'intérêt, vous voyez, ce petit cube à l'intérieur de l'accident, ici, de la zone ischémie, eh bien, voilà le spectre que l'on obtient. Voilà le spectre normal. Et voilà le spectre que l'on obtient. Sans rentrer dans des interprétations métaboliques sophistiquées, vous apercevez que ça n'a rien à voir, ces deux spectres. Tous les signaux caractéristiques d'un tissu normal ont disparu. Nous n'avons plus que le lactate qui est un produit de la glycolyse anaérobie, un produit qui se forme dans le cerveau pour bien effectivement témoigner du fait que ce cerveau n'a plus reçu d'apport d'oxygène suffisant. Alors, encore plus intéressant, dans la situation que je vous avais montrée tout à l'heure, où il y a cette occlusion ici de l'artère sylvienne, la zone de pénombre qui est hypoperfusée, et puis la zone au milieu qui est, elle, une zone ischémiée, et en fait, enfin en périphérie ici, du tissu normal. Bien, voilà le spectre du tissu normal. La zone de pénombre montre une altération de la quantité du signal, mais pas de la répartition. Eh bien, on a ici effectivement un tissu qui souffre, mais qui n'est pas irrémédiablement lésé. Par contre, dans la zone ischémie, vous voyez le spectre, il n'y a que du lactate. Là, nous sommes arrivés à une situation d'irréversibilité métabolique. Alors, ça ne marche pas que ce type d'analyse que dans les accidents vasculaires cérébraux. Ça marche dans. C'est utilisé de façon de plus en plus intense dans tout ce qui est encéphalopathie toxique, virale, d'origine génétique chez les enfants, dans les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, dans les démences. Dans les situations tumorales, et je vais, pour finir, en quelques minutes, illustrer un petit peu ces applications sur un choix de maladie. Eh bien, voilà, maladie d'Alzheimer, une souffrance neuronale avec le N-acétylaspartate qui a baissé, l'inositol qui a monté. Eh bien là, on est dans une situation qui illustre tout à fait un courant actuel qui consiste à avancer des hypothèses de dysmétabolisme, donc de dysfonctionnement, de mauvais fonctionnement du métabolisme, comme étant sous-jacente ou éventuellement un facteur déclenchant, bien, la situation n'est pas encore très claire, de très nombreuses maladies neurodégénératives, par exemple Alzheimer ou Parkinson. Bien, on est à la recherche de marqueurs métaboliques de ces maladies, et voyez l'inositol, qui était dans le cliché ici, clairement augmenté par rapport à la normale, eh bien, on arrive à le corréler avec des tests neuropsychologiques. Alors, est-ce que ceci est un marqueur utilisable de la maladie d'Alzheimer? Eh bien, c'est en pleine évolution et en pleine évaluation aussi. Mais vous voyez que dans une situation où les tests neuropsychologiques ici sont pratiquement en situation de démence, eh bien, l'inositol est très élevé. Et puis, dans une situation là où on est dans la situation qui est quasi normale, eh bien, on a un inositol très bas. Donc, vous voyez, cette hypothèse métabolique, de marqueur métabolique. Dans une tumeur, par exemple, voilà le tissu normal, et voilà le tissu tumoral à l'image. Le tissu normal, vous commencez à le connaître, N-acétylaspartate, créatine, choline. Bien, voilà le tissu tumoral. Ce tissu tumoral n'a plus d'N-acétylaspartate. Les neurones ont été détruits. Et puis, la créatine est encore un peu présente, mais on a ce pic de choline qui est extrêmement important. Ce pic de choline, lorsqu'il est aussi grand, c'est un index de gravité de la tumeur. C'est un index qui renseigne sur le caractère extrêmement actif et agressif de la tumeur. Voici une autre tumeur, c'est un astrocytome. Voilà le spectre normal. Vous voyez le spectre pris dans l'astrocytome est lui clairement anormal, avec encore une colline très élevée, qui est un index de malignité. Et puis ici aussi un signal correspondant au lactate qui probablement révèle une nécrose dans cette tumeur. Et puis alors on peut faire du diagnostic différentiel. Vous voyez que là les images d'IRM ne font pas de différence entre ce qui peut être une tumeur et ce qui peut être un abcès. Un abcès est beaucoup moins grave qu'une tumeur, mais l'imagerie traditionnelle par résonance magnétique ne donne pas suffisamment de renseignements différentiels pour pouvoir trancher. Bien, la spectrométrie tranche. Voilà le tissu normal. Ici, ce signal-là est pris dans cette zone hyperdense. Bien, c'est clairement une situation de tumeur. Il n'y a plus d'anacétylaspartate. Nous avons énormément de lipides, de lactate. À droite, pris ici, eh bien, tous ces signaux sont des signaux qui ne sont pas présents dans le tissu neuronal normal. Il y a de l'acétate, il y a du succinate. Ce sont des tissus, ce sont des signaux caractéristiques d'un tissu qui est un abcès. Bien là, on a fait de façon non invasive un diagnostic différentiel. Et bien sûr, les traitements ne sont pas du tout les mêmes. Dans un cas, ça va être chimiothérapie ou chirurgie. Dans l'autre cas, ce sera des antibiotiques. Alors, un point important, c'est que les lésions anatomiques que l'on va avoir sur un cliché d'IRM sont toujours précédées par une anomalie métabolique. Et donc l'avantage de la SRM par rapport à l'IRM, pour ce type, par exemple, de maladie métabolique ou d'atteinte ou le neuronale, bien, c'est de pouvoir très tôt révéler qu'il y a un dysfonctionnement avant que les images parlent. Je vous donne un exemple sur les encéphalopathies liées au sida. Bien, lorsqu'on a une encéphalopathie liée au sida, qui est donc très, très heureusement une pathologie qui est en quasi, je ne dirais pas disparition, mais qui est devenue extrêmement rare grâce aux effets extrêmement positifs des multithérapies, des bithérapies et des trithérapies. Donc il y a encore 4-5 ans, nous voyons des dizaines de ces cas dans notre pratique à Marseille. Nous en voyons maintenant que quelques-uns par année. Mais n'empêche que ça demeure une situation qui illustre bien l'impact de la spectrométrie. Souffrance neuronale, le acétylaspartate baisse. La colline augmente, ce qui veut dire qu'il y a des démyélinisations qui sont en cours. Il y a aussi l'inositol qui est altéré, qui montre qu'il y a un hypermétabolisme dans la glie. Eh bien, lorsqu'on observe des patients VIH positifs, neuroasymptomatiques, sans aucun signe, sur une large cohorte, eh bien, on s'aperçoit qu'un bon quart d'entre eux, bien que leur cliché d'IRM soit normaux, présente déjà un certain nombre d'anomalies métaboliques qui sont des anomalies qui, si on laisse se développer, peuvent conduire au développement d'encéphalopathie. Alors, je vais vous montrer comment on peut intervenir. Voilà, par exemple, un patient VIH positif avec un profil classique de souffrance métabolique, un acétylaspartate bas, colline élevée, dépisté à temps, je dirais, avant qu'il y ait des lésions irréversibles, avec tout de même des tests neuropsychologiques de très mauvaise qualité et une atrophie cérébrale détecté en imagerie par résonance magnétique, et bien après quelques mois de traitement par la ZT, vous voyez le signal ici à remonter de l'acétylaspartate, et puis le signal de la colline a baissé. Je vais revenir en arrière pour que vous les ayez dans l'œil. Vous voyez, le NA était bas, la colline était haute. Après traitement par la ZT, la colline a baissé, le NA est haut. Donc on a ici un outil qui permet de quantifier l'effet du médicament et de quantifier aussi l'état métabolique, le profil métabolique du cerveau de ce patient. Alors, pour finir, l'imagerie métabolique par SRM, ça consiste à quoi ? Bien, ça consiste non pas à utiliser les techniques de repérage que je vous ai montrées pour obtenir dans le cerveau un seul volume d'intérêt, mais ça consiste à obtenir de façon globale une information, soit en deux dimensions, soit en trois dimensions, sur un ensemble de volumes d'intérêt contigus. Alors ça, on sait le faire par des séquences appropriées d'impulsions de radiofréquences dans des gradients de champs magnétiques. Et le résultat est ceci. On va ici avoir une tranche, au lieu d'un volume qui était un petit cube tout à l'heure. Cette tranche, la voilà dans les trois directions, axiale, sagittale, coronale. Et à l'intérieur de cette tranche, on va avoir une matrice de voxels. Ici, ça doit être du 8 par 8. Dans chacun de ces voxels, on va avoir des spectres. C'est une information métabolique sur l'ensemble du cerveau. Alors, ceci, on peut le traduire de différentes façons. On peut l'exploiter de différentes façons. Soit on va rappeler dans chacun de ces voxels l'information métabolique et l'analyser point par point. Et à ce moment-là, on aura une véritable cartographie métabolique de l'ensemble du cerveau, aussi bien les ventricules que la zone pariétale, frontale. Ou bien on va faire ce que l'on fait d'habitude en imagerie médicale. On va décider que dans chacun de ces voxels, le niveau d'une acétylaspartate va pouvoir être traduit par un niveau de gris ou un niveau de blanc. S'il y en a beaucoup, bien ça va être blanc. S'il y en a peu, ce sera noir. Et puis avec toutes les échelles de gris entre les deux. Et on va avoir ici une image métabolique qui est, dans ce cas-là, l'image de la répartition à l'intérieur du cerveau, sur cette tranche, due à l'acétylaspartate. Eh bien, ça, c'est une nouvelle dimension, parce que l'image de résonance magnétique anatomique que vous aviez vue jusqu'à maintenant, qui était l'image de la cartographie des molécules d'eau, eh bien, on va pouvoir la reprendre comme étant, dans ce cas-là, l'image due à l'acétylaspartate, ou l'image de la créatine, ou l'image de la choline. Donc, vous voyez la nouvelle dimension de cette imagerie métabolique qui est illustrée ici dans le cas de la recherche d'un foyer épileptique. On veut savoir si le foyer épileptique est à gauche ou à droite. On va faire une carte d'une acétylaspartate. Ceci, c'est cette fois-ci codé en couleur au lieu d'être en niveau de gris. Eh bien, on s'aperçoit qu'ici, du côté gauche, on a un déficit en acétylaspartate qui est indicatif d'une baisse de l'activité neuronale, d'une altération métabolique, et qui ensuite, après vérification chirurgicale, correspondait bien au foyer épileptique. Alors, je vais passer là-dessus. Si on fait le bilan, vous voyez que ces techniques d'IRM s'appliquent à beaucoup de choses. Elles s'appliquent à l'étude de l'hémodynamique, donc c'est l'angiographie, la perfusion, à l'étude fine des molécules d'eau pour, par exemple, l'identification de ces tissus ischémiques dans le cerveau. L'anatomie, vous en êtes convaincu, ces images avec des contrastes différents. Les études de transfert d'alimentation, une caractérisation tissulaire que je n'ai pas illustrée ici. Et puis les études du métabolisme par spectrométrie. Alors, pour conclure, on va peut-être arrêter ces diapositives. Je veux dire quelques mots sur la façon dont les choses évoluent actuellement. Bien, en IRM, à côté de ces techniques d'imagerie de plus en plus rapides qui permettent de faire de l'angiographie, eh bien, on est en train de s'orienter de plus en plus vers la dimension métabolique. Et ça, c'est dans l'évolution, à nouveau, des techniques d'imagerie, je dirais une constante. Si on regarde ce qui se passe en l'an 2000 en IRM et en imagerie médicale, eh bien, on est passé graduellement de cette image anatomique que vous aviez vue avec la main de Mme Röntgen à une image fonctionnelle, donc les différentes zones du cerveau qui vont être mobilisées lorsqu'on fait une tâche motrice ou une tâche sensorielle, la vision. Donc ça, c'est la première dimension supplémentaire, la dimension fonctionnelle. Et puis, il y a la dimension métabolique qui apparaît maintenant, qui était déjà présente avec les études de médecine nucléaire. Mais ces études de médecine nucléaire nécessitent des isotopes radioactifs, nécessitent donc des radiations qui sont totalement absentes dans les études de spectrométrie par résonance magnétique. Il n'y a même pas injection de produits de contraste avec du gadolinium dans les études de spectrométrie. Donc vous voyez que c'est une nouvelle dimension de l'imagerie, c'est l'imagerie métabolique. On va être capable, et on est déjà capable sur le cerveau, de présenter une carte de la répartition en deux dimensions et éventuellement en trois dimensions d'un métabolite choisi qui va être caractéristique de la souffrance neuronale, par exemple de la souffrance gliale, ce qui est bien sûr extrêmement important à la fois pour la connaissance, mais aussi pour la gestion de ces neuropathologies qui sont bien sûr un des challenges auxquels le clinicien et le chercheur doivent faire face. Un dernier mot sur la recherche. Bien, si on regarde sur une centaine d'années, aucune méthode d'imagerie, aucun développement significatif dans les méthodes d'imagerie n'a été planifié. Les rayons X, M. Röntgen ne les a pas découverts pour faire de la radiologie. Il a découvert en tant que physicien hein, regardant au niveau d'une cathode ce qui se passait. Si on lui avait demandé, Monsieur Röntgen, trouvez-nous une méthode pour regarder à l'intérieur de la main de votre femme, il n'aurait jamais trouvé les rayons X. Il aurait peut-être trouvé une méthode chirurgicale où avec un trocar, on rentrait un petit microscope, mais enfin, il n'aurait jamais trouvé les rayons X. On parle des ultrasons. Les ultrasons, et avec tout ce que ceci apporte au point de vue information non invasive en imagerie médicale, bien, ils n'ont pas été découverts pour l'imagerie médicale. C'est essentiellement les progrès faits pendant la Deuxième Guerre mondiale sur les sonars qui ont été utilisés ensuite avec les effets Doppler pour faire de l'imagerie médicale par ultrasons. Si on regarde la résonance magnétique nucléaire, l'IRM, la SRM, bien, Bloch et Purcell n'ont pas inventé et n'ont pas découvert le phénomène de RMN pour faire de l'imagerie. J'ai demandé en 1971, lorsque je travaillais en Californie, à Félix Bloch, à Stanford, est-ce que lorsque vous avez découvert le phénomène de RMN, vous pensiez à ce que, à l'époque, début des années 70, l'IRM commençait dans les laboratoires, ce n'était pas encore dans la médecine, dans la médecine c'était 10 années après, au début des années 80. Est-ce que vous pensiez qu'il y aurait une application à l'imagerie? C'était un grand éclat de rire, il n'y avait absolument pas pensé, et pour lui, c'était extrêmement surprenant de voir que ce phénomène de la physique était utilisé dans l'imagerie médicale. De la même façon, pour la médecine nucléaire, qui utilise les radioisotopes, la radioactivité n'a pas été découverte, notamment le travail de Curie, pour faire de l'imagerie médicale ou pour faire de l'émission de positons, de la tomographie par émission de positons. Tout ceci pour vous dire que l'imagerie médicale bénéficie de la recherche fondamentale, l'informatique. C'est-à-dire, sans informatique, il est impossible de faire de la numérisation d'images, impossible de faire du traitement d'images, impossible d'envoyer des images. On envoie des images de Californie à Paris ou à Marseille par satellite. Et puis on sait aussi, grâce à ces ordinateurs, faire les transformés de Fourier qui permettent d'analyser les signaux de façon extrêmement précise et rapide. Alors, le message de tout ça, bien le message, c'est qu'il faut protéger la recherche fondamentale. Parce que sans recherche fondamentale, il n'y a pas de progrès. Et la recherche fondamentale, elle permet de prévoir l'avenir. Et alors, il y a une phrase classique qui devient de plus en plus populaire dans certains milieux, et qui est la suivante, et qui est un peu calquée, vous savez, ce qu'on lit sur les paquets de cigarettes aux États-Unis, où, attention, si vous fumez, ça peut être dangereux pour votre santé. Et alors, ce qu'on peut dire de la même façon, c'est que lorsqu'on parle de recherche fondamentale et de recherche scientifique, bien ne pas faire suffisamment de recherche fondamentale, de recherche scientifique, ça peut effectivement, à terme, devenir très dangereux pour la santé. Voilà, je m'arrêterai là.
Merci professeur. Nous allons passer maintenant très rapidement à la séance des questions. Essayez d'être le plus clair et concis possible pour que nous puissions satisfaire tout le monde.
Après les très belles images que vous nous avez montrées, est-ce qu'il reste une place pour l'imagerie avec des positons, tomographie par émission de positons, et une place pour l'EEG?
Alors, pour l'EEG, bien sûr que oui, parce qu'il y a une complémentarité totale entre l'analyse par spectrométrie et l'EEG. L'EEG, c'est donc les signaux électriques du cerveau qui correspondent, je dirais, aux événements en période, sur le plan temporel, en subaigu, avec une cinétique rapide. C'est aussi un renseignement sur ce qui se passe au niveau des synapses. Lorsqu'on regarde la spectrométrie, bien la spectrométrie travaille sur le pool des métabolites. Elle travaille sur le N-acétylaspartate, elle travaille sur la glie, elle travaille sur le neurone, ce que d'ailleurs le neurochimiste a toujours, jusqu'à maintenant, dans sa change, négligé. Et on travaille, bien sûr, sur ces pools de métabolites qui ont des constantes de temps très lentes. Donc il y a une complémentarité totale entre les méthodes électriques comme le EEG, électroencéphalographie, qui va donner des renseignements sur des phases aiguës, ou des processus qui ont des constantes de temps très brèves, et de notre côté, la SRM qui donne des renseignements sur des processus qui sont beaucoup plus lents, installés, chroniques, et qui concernent les lipides, le pool de métabolites, la souffrance neuronale, la souffrance gliale. Donc il y a complémentarité. Maintenant, avec la TEP, la tomographie par émission de positons, je ne sais pas ce que va dire mon collègue dans 3 jours, mais effectivement, il y a un certain recouvrement, pour le moment qui est plutôt une complémentarité. C'est un peu l'avenir qui nous dira s'il y a un effet de substitution en même temps qu'un effet d'addition. Actuellement, on est dans un effet d'addition. Les informations métaboliques obtenues par spectrométrie sont tout à fait complémentaires des informations obtenues par la tomographie par émission de positons. Est-ce qu'il va y avoir effet de substitution? Est-ce que la SRM va remplacer la TEP? Mais ça, on le verra dans les années à venir, mais il est clair que la tendance est d'essayer d'écarter de plus en plus de l'imagerie médicale les radiations ionisantes et les radioisotopes.
Une question? Oui. J'ai une question, je ne sais pas s'il faut la poser ici, mais tant pis, je me lance. Est-ce que vous pensez que l'imagerie médicale peut aider à faire un diagnostic pour un enfant de 4 ans qui ne parle pas?
Écoutez, alors c'est très difficile de répondre. Il faudrait que vous consultiez les cliniciens spécialisés de l'enfant. Nous en avons d'excellents à Marseille, dans l'hôpital d'enfant. Mais vraiment, je ne peux pas vous répondre comme ça.
Je voudrais voir qu'une technique aussi d'imagerie que vous avez parlé, c'est l'OCT.
Je n'entends pas.
L'OCT.
Oui.
L'imagerie par cohérence optique.
Oui.
La tomographie par cohérence optique.
Oui.
Elle est basée sur le principe de l'interférométrie de Michelson. C'est une technique d'imagerie qui a été développée en ophtalmologie et qui a l'air de se développer, que j'ai réalisé pour l'examen des tissus. Vous connaissez l'OCT.
Oui, et votre question, c'est quoi?
C'est savoir effectivement où en est cette technologie.
Ah, écoutez, je ne suis pas un spécialiste de cette technique. Il y a de très nombreuses techniques d'imagerie qui sont en permanence en cours de développement, mais ça, c'est la recherche.
Bon, non, c'est une technique qui est actuellement...
Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a de très nombreuses techniques d'imagerie qui se développent. Je parlais tout à l'heure des ultrasons pour l'imagerie à haute définition de l'œil, ça aussi se développe. Donc, est-ce que l'impact va être important? C'est ça votre question?
Oui.
Moi, je ne suis pas devin dans ce sens-là. Ce qu'il faut voir, c'est à chaque fois regarder les avantages nouveaux qu'une nouvelle technique peut apporter. S'il y a véritablement des avantages compétitifs, l'effet de déplacement est extrêmement rapide. On l'a vu avec l'IRM. L'IRM s'est d'abord ajouté aux techniques scanographiques à rayons X. Nous en sommes maintenant dans la phase de substitution progressive et qui, probablement, va devenir totale. Et si elle n'est pas totale, et si elle n'est pas rapide, ce n'est pas pour des raisons d'imagerie ou des raisons de médecine, c'est pour des raisons économiques.
Bon, alors, dans la comparaison de deux techniques, c'est-à-dire l'IRM et l'échographie, j'aimerais que vous m'éclairiez sur 2 points précis. L'angiographie, donc, en IRM, et également, en effet, Doppler par échographie, les résultats qu'on peut obtenir, complémentaires ou pas. Et un deuxième point sur lequel vous n'avez pas parlé, c'est-à-dire l'ostéoporose, vous en avez parlé pour l'échographie, mais vous n'avez pas parlé en RMN des études faites pour mettre en évidence la densité des travées osseuses en fonction de l'âge des patients.
Alors écoutez, on ne peut pas en 50 minutes parler de tout, donc j'ai fait un choix et ma conférence n'était pas une conférence de comparaison des différentes techniques. C'est un vaste débat, il faudrait des journées. Et d'ailleurs, on le fait dans des séminaires. Alors, pour tout de même répondre, les ultrasons ont de nombreux avantages. Ce sont des méthodes relativement simples de mise en œuvre, peu coûteuses, largement pratiquées, je dirais, hors le monde de la radiologie. Les cardiologues font leur propre échographie, les gynécologues aussi, les gastro-entérologues aussi. Donc il y a une dissémination de la technique dans toutes les disciplines médicales, et ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est finalement peu coûteux, et c'est un contenu informationnelle relativement important. Alors, est-ce qu'une angiographie par RMN est comparable à une angiographie, une angiographie ou une étude des vaisseaux par ultrason? Bien, on ne joue pas dans le même camp. Hein. Par échodoppler, on va mesurer une vitesse. Hein. On ne va pas absolument, pas du tout faire une image de l'ensemble du système vasculaire. Donc, ce n'est pas comparable, ce sont deux champs d'application totalement différents. Hein, avec une certaine complémentarité. Mais ce sont deux champs totalement différents. Maintenant, pour l'ostéoporose, alors, c'est une vaste affaire pour des raisons de santé publique évidentes. Hein. Actuellement, la méthode de base est basée sur la densitométrie, le DPA, hein, le diphotonique, l'absorptiométrie diphotonique, qui est une méthode qui utilise des radiations invasives et avec de très grandes limitations, cette méthode. Les méthodes basées sur les ultrasons dont je parlais, qui sont en plein développement, il y a même donc l'appareil commercial qui est un transfert direct de la recherche de laboratoire du CNRS, parisien d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, dont les ultrasons peuvent donner actuellement des informations tout à fait utilisables. Ça se fait sur le talon, sur le calcanéus, hein, sur le contenu minéral osseux, sur la densité osseuse. C'est facile, c'est peu coûteux. Un appareil comme ça, je ne sais pas le prix, mais ça doit être peut-être 200 ou 300 000 francs. Hein. Il n'y a pas de radiation. Hein. On peut repérer par un système informatique la position exacte du talon, et si vous revenez pour consultation 6 mois ou 1 an après, donc l'ordinateur a gardé vos coordonnées, en quelque sorte, et va pouvoir repositionner le talon exactement au même endroit pour refaire une nouvelle mesure. Donc je crois davantage dans les techniques de ce type-là que dans les techniques basées sur des radiations ionisantes. Alors est-ce que la RMN peut contribuer? Bien, ce n'est pas une affaire très claire. Hein. L'os a très peu d'eau. Hein. Mais l'os apparaît très bien en RMN, notamment tout ce qui est pathologie tumorale, osseuse, l'IRM, est une méthode de référence pour un certain nombre de pathologies tumorales osseuses. Donc, est-ce que cette sensibilité à la structure osseuse est suffisante pour que l'IRM devienne une méthode, je dirais, de référence pour l'ostéoporose? Ça, je n'en sais rien. Il y a tout un aspect de la chimie là-dedans. Hein. Nous avions fait nous-mêmes, il y a une dizaine d'années, des études en spectrométrie du phosphore, hein, puisque dans l'os, il y a du phosphore, des phosphates. C'était extrêmement décevant. Hein, essayer de caractériser la structure osseuse par un spectre du phosphore, ça marche très mal et c'est très difficile à faire. C'est certainement pas, du moins à l'époque, ça pourrait peut-être maintenant la peine d'être repris avec les méthodes modernes qui sont beaucoup plus avancées, hein, sur le plan de la spectrométrie de l'imagerie, mais il y a une dizaine d'années, c'était extrêmement décevant.
Nous allons prendre trois dernières questions.
Bonjour monsieur, très rapidement, une réponse de votre part, oui ou non. Est-ce que les imageries médicales comportent des risques sur l'équilibre des structures moléculaires de la protéine?
La réponse est non.
Merci.
Monsieur, si vous pouvez poser votre question sans micro. Ah, si, un micro, quoi. Ou sans micro en...
Vous avez parlé de l'IRM, donc vous avez dit que ça ne présente
pas... C'est peut-être un micro.
Vous avez dit que ça, l'IRM...
Alors, bonsoir. Donc, vous avez dit que l'IRM, par opposition aux rayons X, ne présente aucun risque pour le corps humain. Alors, moi, je suis un peu surpris quand on voit le corps plongé dans une bobine avec un champ magnétique, vous avez vous-même dit, je ne sais pas combien de Tesla, 100 fois ou 1000 fois supérieur au champ magnétique terrestre. Alors, est-ce que vous maintenez quand même, vous dites toujours que vraiment le risque est égal à zéro pour le corps humain? Et j'enchaîne avec une deuxième question. Si les rayons X, c'est-à-dire des radiations ionisantes, représentent un risque pour le corps humain, pourquoi on continue à utiliser ces techniques dans les hôpitaux alors qu'on a maintenant l'IRM qui ne présente aucun risque? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous éclairer?
Merci. Alors, je vais répondre... D'abord, sur la deuxième question, parce que ça va plus vite. Ça, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Hein. Pourquoi n'y a-t-il pas assez d'appareils d'IRM? Pourquoi l'accès C'est beaucoup plus facile un scanner X qu'un appareil d'IRM. Bon, ça, c'est un problème de politique de santé. Je crois qu'il n'y a pas photo, hein. Mais ensuite, il y a d'autres impératifs économiques. Et je dis la question, posez-la aux personnes qui sont capables de vous répondre parce qu'ils ont le pouvoir de décider sur une politique d'implantation d'appareils d'IRM versus appareil basé sur le rayon X ou d'autres techniques d'imagerie. Dans l'aspect risque et danger, bien sûr, est un aspect extrêmement sérieux. Hein. Parlons d'abord des radiofréquences. Hein, il y a deux choses dans l'IRM, il y a le champ magnétique, il y a les radiofréquences. Pour les radiofréquences, on peut évacuer le problème immédiatement. Nous sommes dans les mégahertz, je vous l'ai dit, ce sont des énergies extrêmement faibles, des millijoules. Vous faites ça, voilà, sur votre peau, vous avez quelques millijoules. Donc, ce n'est pas plus dangereux que d'écouter votre stéréo. On est dans la même gamme de fréquences, pour être un peu trivial. Dans les champs magnétiques, bon, il y a un danger de champs magnétiques pour les champs magnétiques, pour les patients qui sont porteurs, par exemple, d'une pompe à insuline ou d'un pacemaker, bien évidemment. Hein, puisque placer ce patient avec un pacemaker dans un champ magnétique lui fait courir un risque vital, puis son pacemaker risque de s'arrêter. Donc ça, ce sont les exclusions classiques de patients qui sont systématiquement soumis à l'interrogatoire avant de rentrer dans un appareil d'IRM pour savoir s'ils ont une contre-indication. C'est un nombre extrêmement faible de patients, et donc on ne leur fait courir aucun risque à ces patients puisqu'on les dépiste avant. Alors, est-ce que le champ magnétique lui-même a un effet nocif? Alors, il faut faire la différence entre deux types de champs magnétiques. Il y a le champ magnétique que j'avais appelé B0, hein, qui est un champ magnétique stationnaire, qui est un champ magnétique élevé. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, dans la littérature, et ce n'est pas Patrick Ozone qui vous dit ça, c'est l'observation de plusieurs dizaines d'années, il n'y a aucun effet nocif rapporté dû à des champs magnétiques stationnaires. Et l'utilisation de ces champs magnétiques stationnaires n'a pas commencé avec l'IRM. Dans les grands accélérateurs de particules, si vous allez au CERN, etc., ils ont des aimants supraconducteurs qui sont plusieurs ordres de grandeur plus puissants que les aimants que l'on utilise en IRM. Il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, et croyez-moi, c'est regardé de façon extrêmement attentive par toutes les autorités de régulation, non seulement en Europe, mais aux États-Unis, il n'y a aucun cas décrit pouvant attribuer au champ magnétique stationnaire un effet nocif. Nous vivons dans un champ magnétique, nous, en permanence. Je suis d'accord qu'il est beaucoup plus faible, mais nous vivons dans un champ magnétique. Alors, où il peut avoir danger, c'est avec ces fameux gradients dont je vous ai parlé, qui permettent de coder l'espace pour ensuite faire le repérage tridimensionnel de molécules d'eau. Parce que ces gradients, donc ces champs magnétiques additionnels, sont des champs magnétiques qui varient dans le temps. Donc, ce qu'on appelle une commutation, donc on va les brancher, les enlever, et ceci de façon extrêmement rapide, ce qui veut dire qu'il va y avoir un D de B sur DT, si vous faites un peu de physique, donc il va y avoir une variation de flux magnétique, et s'il y a variation de flux magnétique, eh bien, il peut y avoir induction d'un petit courant. Alors ceci se fait de façon extrême, avec des commutations de gradients extrêmement rapides en imagerie rapide, qu'on appelle imagerie écoplanar, par exemple, où on peut induire une petite sensibilité au point de vue nerveux, des terminaisons nerveuses, due à cette stimulation par les commutations rapides. Alors sachez que tous les appareils d'IRM sont bridés. Et donc, avant de lancer une séquence d'acquisition, on doit rentrer le poids du patient, etc. Et ensuite, il y a des algorithmes de calcul qui vont calculer en fonction du poids du patient ce qu'on appelle les énergies déposées maximales tolérées, et ces énergies vont être calculées dès que vous affichez la séquence que vous voulez utiliser pour obtenir l'image. Si vous excédez les limites extrêmement conservatives imposées, l'appareil ne démarrera pas. Donc il y a une sécurité absolue dans les appareils d'IRM cliniques pour justement ne pas avoir cet effet secondaire qui est un effet uniquement désagréable. J'avais fait l'expérience moi-même plusieurs fois, bon, vous entendez un petit fourmillement, mais c'est bien sûr un effet qui n'est pas, qu'il ne faut pas tolérer. Donc, voilà où est le danger. Le danger, c'est effectivement sur ces commutations, le danger possible, mais qui est totalement géré par, ce que je disais, l'observation de règles de sécurité draconiennes. Il y a des agences d'observation permanentes, le FDA aux États-Unis, Food and Drug Administration, qui regardent en permanence les nouveaux équipements, les nouvelles séquences pour avoir une sécurité totale.
On va prendre une dernière question.
Vous avez expliqué que les accidents cérébraux, c'est la troisième cause de mortalité, apparemment. Donc ça suppose que ces appareils-là pourraient être utiles en grand nombre. Combien est-ce qu'il y en a actuellement et combien est-ce qu'ils coûtent ?
En France ?
Oui.
Ben là, à nouveau, c'est un problème. Je ne veux pas évacuer la question, mais c'est le même problème que monsieur tout à l'heure. En France, nous avons, au jour d'aujourd'hui, 182 ou 183 appareils installés d'IRM. Et on doit avoir à peu près 580 scanners ou un peu moins de 600 scanners. Ce qui fait à peu près donc trois appareils d'IRM pour 1 million d'habitants. Donc, trois appareils d'IRM pour 1 million d'habitants. À titre de comparaison, les États-Unis ont 18 à 20 appareils d'IRM pour 1 million d'habitants. L'Espagne en a 9. L'Espagne en a 7. 7 ou 9. L'Allemagne en a 11, je crois. Donc, nous sommes... La moyenne européenne est 7. 7 pour 1 million, dont nous avons 3 en France. Voilà, je veux dire, là, à nouveau, ce n'est pas le biophysicien qu'il faut interroger, mais c'est davantage les personnes qui sont en charge de la politique des équipements lourds. Alors, bien sûr, il y a des coûts associés. Bien, sachez que le coût des appareils d'IRM a baissé de moitié en 10 ans. Donc, le prix moyen d'un appareil extrêmement performant, capable de faire tout ce que je vous ai montré là, la diffusion, la perfusion, la spectrométrie, l'angiographie, est 9 à 10 millions de francs. Ce n'est pas, dans le niveau des dépenses de santé d'un pays, une somme inabordable. Alors, il est clair qu'à partir du moment où on a un appareil installé, il y a des explorations qui sont faites et que ces explorations donnent lieu à des dépenses, à des remboursements. Et donc là, c'est tout le problème de la politique sanitaire. Alors, pour revenir aux accidents ischémiques, juste en un mot, bien, il est clair que si l'on veut faire profiter un patient de toutes les chances, bien, compte tenu de ce que la littérature et les études montrent au jour d'aujourd'hui, l'examen de première intention devrait être un examen d'IRM. Pas le scanner.
Merci.